Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire organisé par Grisby Immobilier Locatif. Comment se lancer en 2023? Vous êtes nombreux lors de nos échanges avec les conseillers à nous poser des questions justement sur l'investissement immobilier en direct. Vous avez été nombreux également lors d'un sondage qu'on avait réalisé l'année dernière sur les nouveaux sujets adressés au cours de webinaire, à nous parler de l'investissement dans l'immobilier, l'investissement dans la pierre. Donc, on est très heureux aujourd'hui de traiter ce sujet. Par le passé, à plusieurs reprises lors de précédents webinaires, on a déjà adressé le sujet de l'investissement dans l'immobilier, mais essentiellement de manière intermédiaire via des SCPI, Société Civile de Placement dans l'Immobilier, ou alors via des fonds immobiliers accessibles en assurance vie en particulier. Et donc pour la première fois aujourd'hui, on va adresser le sujet de l'investissement immobilier locatif en direct pour vous éclairer sur cette thématique. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Thierry Gendron, partenaire de Grisby, à qui d'ailleurs je vais laisser la main pour se présenter. Bonjour Thierry.
Bonjour Maxime, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, c'est avec plaisir effectivement que je vais co-animer avec Maxime ce webinaire ce soir. Donc moi, je suis directeur associé d'une structure qui s'appelle Contacom Investissement. Donc c'est une structure comptable qui accompagne en fait les investisseurs qui font de la location, principalement sous le format location meublée. Cette structure, elle existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Et elle fait partie d'un réseau plus global, puisque le réseau Contacom, au sens large, aujourd'hui, c'est 54 cabinets, c'est 35 associés, c'est un peu plus de 600 collaborateurs. Donc, la plupart des cabinets sont des cabinets de comptabilité classique. Et moi, la structure que j'ai le plaisir de diriger est vraiment uniquement dédiée aux investisseurs immobiliers. Donc, voilà, présenter rapidement qui nous sommes.
Parfait. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à l'ensemble de nos participants que vous avez la possibilité de poser des questions, questions par écrit à travers notre outil. N'hésitez pas évidemment à nous poser vos questions qu'on pourra relayer, que je pourrai relayer auprès de Thierry. Et on accordera un temps de questions-réponses à la fin de l'intervention si on n'a pas eu l'occasion de répondre à l'essentiel des questions qui ont été posées. Je ne garantis pas qu'on puisse répondre à toutes les questions, ça dépend également du nombre de questions qui sera posées et puis des sujets. L'investissement dans l'immobilier en direct, c'est un sujet extrêmement vaste. On ne pourra pas, à l'occasion de ce webinaire, rentrer dans le détail de toutes les modalités, de tous les dispositifs d'investissement. Sachez, voilà, c'est notre premier webinaire. On va parler déjà des principales choses à connaître, à comprendre, notamment quand on investit dans l'immobilier résidentiel en propre. Voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment ça fonctionne. On va essayer de vous apporter l'éclairage le plus complet possible. Et voilà, donc on va partir tout de suite sur le sujet. Et on aura l'occasion, dans le cadre de futurs webinaires, de compléter les échanges qu'on aura aujourd'hui sur l'investissement immobilier en direct. Pourquoi choisir d'investir dans l'immobilier locatif? Les objectifs qui sont associés à cette démarche sont souvent les mêmes. Déjà, on peut parler de se constituer un patrimoine durable et stable, de bénéficier bien sûr de revenus complémentaires, bénéficier également de l'effet de levier du crédit, même si les taux remontent, c'est toujours intéressant quand on peut en profiter. Préparer la transmission de son patrimoine, c'est aussi une des raisons qui poussent les investisseurs à se lancer dans cette démarche. Et puis, dans une logique aussi de diversification de ses actifs, l'immobilier a une place chère dans le corps des Français depuis toujours, hein. D'ailleurs, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation économique, l'actif de l'immobilier, la pierre, a toujours un grand attrait pour de nombreux investisseurs, de nombreux Français. Tout ce qu'on peut se dire par rapport à ces raisons, voilà, elles sont souvent partagées. Et puis, quand on parle de caractéristiques liées à un investissement dans l'immobilier, c'est un engagement financier qui est important. C'est un investissement qui s'inscrit dans la durée, dans le long terme. Et voilà, ce sont des raisons qui nous incite à bien comprendre, bien connaître le sujet avant de s'en lancer. Et c'est la raison pour laquelle Thierry, aujourd'hui, va nous éclairer. Pour démarrer, Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est un bon investissement locatif ?
Alors, ça va être un petit peu une réponse de Normand, mais il n'y a pas de bon investissement locatif. En fait, l'idée, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire, quel type d'investissement on veut faire, quelle rentabilité on veut chercher. Est-ce qu'on va chercher du confort aussi ? Est-ce qu'on va chercher de la rentabilité ? Est-ce qu'on est dans un objectif de transmission ? Et en fonction en fait, de ces objectifs, on peut avoir des projets différents. Je vais l'illustrer avec un exemple. Si demain, j'ai la capacité d'investir 500 000 euros dans un projet locatif, je peux très bien acheter un appartement sur Paris pour faire de la location annuelle, soit en nu, soit en meublé. Je vais pouvoir acheter pour le même prix peut-être 5 appartements ou 5 petits studios en province que je vais plutôt adresser à des locations étudiantes. Je peux très bien acheter un autre appartement. Alors, je n'ai pas pris Paris, j'ai volontairement pris par exemple une autre ville type Lille pour faire de la location courte durée. On sait que sur Paris, par exemple, la location courte durée est compliquée de par les réglementations que met la ville de Paris, alors qu'il y a des villes aujourd'hui où il y a encore de vraies opportunités, où je vais pouvoir investir ces 500 000 euros dans une résidence en bord de mer que je vais plutôt d'abord utiliser pour moi et pour lequel finalement la location sera quelque chose d'un peu occasionnel. Donc, globalement, un bon investissement, c'est déjà celui qui va répondre à votre projet. On sait que, par exemple, la location annuelle est beaucoup moins chronophage que la location courte durée. La rentabilité n'est pas la même. Donc, il faut déjà savoir un petit peu ce qu'on a envie de faire. Et un bon investissement, c'est finalement celui qui va répondre à vos objectifs. Derrière, et c'est tout l'enjeu de la soirée, c'est aussi de comprendre la fiscalité. Parce qu'effectivement, on va voir, et c'est l'objectif de ce webinaire, de voir qu'il y a des fiscalités différentes. Et pourquoi c'est important de bien comprendre la fiscalité ? C'est parce qu'effectivement, pour pouvoir comparer justement les différents investissements tels que je les évoquais avant, pour se dire ben finalement celui-ci est peut-être plus intéressant que l'autre, on va regarder des notions de rentabilité brute, c'est-à-dire effectivement mon investissement sur les loyers que ça va me générer, mais également ma rentabilité nette. Et ma rentabilité nette, elle va être liée justement à la fois peut-être si je fais de la courte durée, par exemple, aux charges que je vais avoir si je délègue à une conciergerie, mais également et de façon relativement importante à la fiscalité qui va être générée par les loyers. Et c'est effectivement comparer un investissement, c'est regarder finalement en net-net mon prix d'achat, moins mes loyers, moins mes charges, mais effectivement moins l'impôt que ça va me générer. Ça me permet de comparer des projets différents. Et une fois qu'on a un petit peu défini quel projet on voulait avoir et que finalement on les compare sur des choses comparables, c'est-à-dire une rentabilité nette, finalement le bon investissement, c'est celui qui correspond à la meilleure rentabilité, mais également à ce que vous recherchez derrière.
Effectivement, quand on parle d'investissement immobilier locatif, ça peut s'inscrire dans une logique de recherche ou de réflexion autour de l'acquisition d'une résidence secondaire, par exemple. Qu'on peut louer le temps qu'on l'utilise pas, par exemple, mais avec un objectif prioritaire qui est celui de le développement, la constitution de son patrimoine et avec une idée de transmission à titre d'exemple. On s'inscrit pas du tout dans une même logique que quand on veut investir peut-être dans une ou plusieurs petites surfaces avec des villes qui permettent de générer des rentabilités plus élevées, mais dont on ne souhaite pas profiter, effectivement. Donc, si je résume et si j'ai bien compris, Thierry, tu me reprends si j'ai une mauvaise compréhension, c'est que...
Il n'y a pas de souci.
Le bon investissement locatif, c'est celui qui répond de manière pertinente et efficace d'un point de vue financier et fiscal à ses attentes prioritaires. Est-ce que je suis prêt à m'impliquer dans la gestion ou pas ? Je recherche du confort. Est-ce que je recherche avant tout de la rentabilité ou finalement un investissement patrimonial qui sera moins rentable, mais sur lequel qui me permettra d'être plus serein sur la qualité du produit que j'achète et peut-être de la valeur au moment où j'envisagerai la revente ? Donc voilà, il y a plein de possibilités, mais ce sont les premières questions qu'il faut se poser pour finalement définir son projet d'investissement dans l'immobilier et identifier deux premières choses. C'est quel type de bien je veux acheter. Ça peut être effectivement une petite surface une plus grande surface, soit pour faire de la colocation ou autre. Ça peut être un appartement, ça peut être une maison, ça peut être un immeuble également. Et puis, la deuxième question à laquelle il faut répondre, c'est à quel endroit je souhaite investir. Pour une résidence secondaire, ça peut être assez simple quand on a des habitudes, quand on a des lieux qu'on privilégie pour passer ses vacances notamment. Mais dans le cadre d'un investissement locatif qui ne s'inscrit pas dans ce projet de résidence secondaire, il faut bien sûr y réfléchir. Et avant, derrière, de creuser les sujets de la fiscalité, et c'est aujourd'hui, Thierry, tu vas nous apporter un éclairage sur ces sujets liés justement à la rentabilité, à la fiscalité des principaux dispositifs d'investissement locatif en propre, en tout cas. Mais oui, voilà les premières questions qu'il faut se poser pour avant de se lancer dans ce type de démarche. Est-ce que tu peux nous partager, Thierry, justement quelques bonnes pratiques en matière d'investissement immobilier locatif ou de points de vigilance, de points d'alerte ou de bonnes pratiques dans le cadre de cette première étape qui est la réflexion autour du projet. Je pense à la localisation, par exemple.
En fait, il faut vraiment regarder le projet dans une perspective globale. Je vais l'illustrer avec deux exemples. Aujourd'hui, un investissement sur Paris, ce n'est pas un investissement qui, en termes de rentabilité, est très intéressant. Les loyers sont élevés, mais si on rapporte les loyers au prix d'achat au mètre carré, on n'a pas des rentabilités énormes. Par contre, on sait que si on fait un bon investissement dans Paris, c'est un bien qui va prendre de la valeur. Donc, on capitalise à la fois sur les loyers, mais aussi sur les perspectives de plus-value lors de la revente. Inversement, quand par exemple on va faire une colocation, la colocation est très tendance parce qu'il y a des bonnes rentabilités, mais aussi pour avoir une colocation un peu attractive, il va falloir que j'aille peut-être sur des villes plus de seconde zone pour avoir des prix d'acquisition moins chers. Il va falloir aussi que je fasse beaucoup de travaux pour faire en sorte que quelque part ma colocation elle soit assez sympa. Aujourd'hui, on voit des travaux sur des colocations où les clients vont couper les appartements en 4 ou 5 chambres dans lesquelles ils vont installer systématiquement une salle de bain par chambre. La rentabilité est bonne, mais il faut aussi amortir les travaux qui ont été faits. Ça veut dire que c'est peut-être des biens qui demain, quand on va les revendre, il n'y aura pas forcément de grosse plus-value parce que les travaux qu'on a faits, on aura du mal à avoir un retour sur investissement. Ça veut dire aussi qu'on aura beaucoup, par exemple, de turnover parce qu'on sait bien que sur les colocations, il y a des turnovers plus importants. Donc, c'est là, en fait, où c'est difficile de dire à un client, c'est ça le bon projet. En synthèse, la seule chose, c'est ne vous laissez pas uniquement éclairer par des contraintes ou des objectifs fiscaux de rentabilité, mais voyez bien sur du long terme, sur la rentabilité globale du projet, et puis si aussi ce projet il correspond au temps que vous voulez lui accorder. Parce qu'effectivement, si par exemple on fait de la courte durée et qu'on gère par soi-même, on aura une très bonne rentabilité et ça va générer du cash. Si je fais de la courte durée, mais que je délègue à un gestionnaire, notamment une conciergerie, il y a une partie de la marge qui va être prise par la conciergerie. Donc finalement, j'aurai une rentabilité nette qui sera peut-être des fois guère supérieure à ce que j'aurais eu en ayant une location annuelle avec des étudiants, par exemple.
Oui, donc raison de plus pour effectivement être vigilant entre le calcul de la rentabilité brute et de la rentabilité nette sur le projet d'investissement. Est-ce qu'on peut dire, à titre d'illustration, que si on rentre dans un projet de gestion, d'investissement immobilier locatif avec une gestion dynamique, une gestion active, tu parlais de location saisonnière, tu parlais de colocation, est-ce qu'il est préférable ou non d'investir dans une zone géographique proche de chez soi ou pas? Oui, c'est ça. Donc, effectivement, la localisation, c'est une des questions qu'il faut se poser. Et dans le cadre de ce projet-là, avec une gestion dynamique, une gestion active, il faut, dans la mesure du possible, essayer de trouver à partir du moment où on préfère prendre les choses en main, choisir une localisation proche de chez soi. Il y a un autre sujet, effectivement, qu'on abordera de manière non détaillée aujourd'hui, qui est un sujet qui est bien connu des particuliers, des contribuables en particulier, ce sont les dispositifs défiscalisants. Et moi, j'avais un message à faire passer. C'est un message qu'on fait passer au niveau du cabinet de manière régulière parce qu'on est très, très souvent sollicité sur ce sujet. Je pense à un investissement dans le Pinel. Il y a bien d'autres dispositifs qui permettent de réduire son impôt. Et c'est aussi un sujet sur lequel on se rejoint avec Thierry et Contacom Investissement. C'est que, évidemment, ça peut être tout à fait intéressant dans certains cas de figure, mais il faut être très sélectif et il ne faut surtout pas être aveuglé par l'avantage fiscal associé à tel ou tel dispositif, que ce soit le Pinel ou un autre. L'avantage fiscal, que ce soit pour l'investissement immobilier ou pour les autres types de dispositifs fiscaux, c'est toujours la cerise sur le gâteau et certainement pas le gâteau. Donc il faut avoir une bonne compréhension du projet tel qu'il nous l'est présenté, une bonne connaissance voilà, du projet, une bonne compréhension des prix qui sont indiqués. À titre d'exemple, souvent, 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 et on est bien placé pour le savoir. Les produits qui sont proposés d'investissement Pinel sont proposés à des prix élevés, très élevés. Ce qui fait que l'avantage fiscal au cours du cycle de vie de cet investissement est renié de manière, peut-être renié de manière significative par le prix d'acquisition qui est souvent trop élevé par rapport au prix du marché parce qu'il y a des commissions importantes qui sont prélevées par le promoteur, le distributeur, etc. Donc ça ne veut pas dire que ça n'a aucun intérêt, ça veut dire que si vous souhaitez vous intéresser à ce type de projet d'investissement immobilier défiscalisant, soyez prudent, extrêmement sélectif, et si vous avez un doute, il est préférable de ne pas y aller. Je ne sais pas si Thierry était complètement en phase ou tu voulais rajouter quelque chose.
Je suis complètement en phase et ça me permet de rebondir. Donc effectivement, il faut jamais oublier qu'avant tout, c'est un investissement immobilier. Donc comme tu le disais, le dispositif défiscalisant finalement n'est que la cerise sur le gâteau. Et quel que soit l'investissement que l'on fait, c'est d'abord de l'immobilier. Je vais l'illustrer avec un exemple et on en reparlera un peu plus tard. Mais vous verrez effectivement dans cette histoire que la fiscalité immobilière de la location meublée est quelque chose de très intéressant. Pour autant, j'ai eu l'exemple d'un client il n'y a pas si longtemps que ça qui avait compris que la fiscalité immobilière meublée était quelque chose de très intéressant et qui a investi dans une maison qu'il voulait louer en meublé dans un tout petit village de Bretagne. Bah, il me dit, mais j'arrive pas à louer parce que les gens dans ce village, ils veulent des biens en location nue. Les familles ne veulent pas. Je dis, bah oui, bah, la première question à se poser, c'était pas le côté fiscal, c'était d'abord le côté, est-ce que mon bien répond à un besoin du marché? On investit dans de l'immobilier. Avant tout, on doit répondre à un besoin marché. Et après, toutes les autres questions, que ce soit la fiscalité ou l'optimisation de la rentabilité, ne sont finalement que des résultantes ou des choix qu'on optimise. Mais on est avant tout dans de l'investissement immobilier, donc on doit répondre à un besoin client.
Je te relaie une première question, Thierry. On en a déjà eu plusieurs et merci déjà aux participants qui nous ont posé ces premières questions, qui est en lien justement avec la définition de son projet. Alors je ne sais pas s'il y a une réponse pour tout le monde, mais la question vaut la peine d'être relayée, bien sûr. Quel est l'âge maximum raisonnable pour investir dans l'immobilier locatif? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question?
Il n'y a pas d'âge raisonnable dans le sens où on peut investir à tout âge. Par contre, ce qu'on conseille à nos clients, c'est que quand on avance dans l'âge, il est recommandé de ne pas investir uniquement dans l'immobilier, mais de diversifier en fait son patrimoine. Parce qu'effectivement, d'autres supports type assurance vie ou ainsi de suite sont des supports qui peuvent être très intéressants dans le cadre de transmission. Et effectivement, plus on avance dans l'âge, plus il faut diversifier son patrimoine. Après, il n'y a pas d'âge limite quelque part pour investir, puisque de toute façon, tout ce qu'on fera en investissement et notamment en propre, on crée du patrimoine pour soi, mais éventuellement aussi pour ses enfants. Il y a plus des logiques aussi de transmission, par exemple, derrière, qui peuvent être évoquées lorsqu'on avance dans l'âge, où en fait on commence à capitaliser, mais déjà en pensant à la transmission à ses héritiers.
Ouais, alors je ne sais pas si dans la question l'idée était également sous-jacente. Peut-être que notre participant réfléchissait également à l'activation du crédit immobilier. Sauf si tu me dis le contraire, Thierry, mais à ma connaissance, effectivement, et à partir d'un certain âge, on ne peut plus, ou c'est devient très très compliqué d'obtenir un crédit immobilier. Donc il y a l'investissement immobilier qui peut se faire à tout âge, évidemment. L'investissement immobilier via le crédit immobilier, on ne peut pas le faire à tout âge. Si on a 75 ans ou plus, évidemment, ce n'est pas possible. Et peut-être d'ailleurs 65 ou 70 ans, ça peut devenir déjà pas simple.
Tout à fait.
Donc voilà, il y a le projet en tant que tel, et puis il y a les modalités, notamment via le crédit immobilier, qui ne peut pas se faire à tout âge. Donc ça, c'était un premier point. Si on poursuit peut-être Thierry, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'évoquer les différents dispositifs immobiliers, et puis rentrer dans le vif du sujet sur la comparaison entre la location nue et la location meublée, si tu le veux bien.
Alors, sur les différents investissements locatifs, globalement, ce soir, ce qu'on va vraiment aborder, c'est effectivement de comprendre un petit peu la différence sur la fiscalité entre la location nue et la location meublée, puisque c'est vraiment quand même la majorité des cas, et c'est vraiment notamment la location meublée en propre, le régime sous le statut LMNP qui aujourd'hui est le plus intéressant. On n'évoquera pas par choix effectivement tout ce qui est régime de société. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions sur les SCI. Ça aurait été un sujet trop vaste. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'effectivement, ce qu'on va aborder ce soir, notamment les MNP, c'est vraiment la situation idéale. Quand on va aller sur des montages sociétés, et ça, on sait faire, on sait accompagner les clients, on va être sur des problématiques un petit peu différentes, notamment sur des problématiques de transmission ou d'optimisation en fait, de la transmission. Mais la SCI n'est pas un régime miracle, où toutes les sociétés au sens large ne sont pas des régimes miracles d'un point de vue fiscal. Ce sont plutôt des régimes qui permettent en fait d'optimiser la transmission auprès des héritiers.
Oui, j'ai d'ailleurs lu un article cette semaine à ce sujet. C'est que spontanément, il y a beaucoup de particuliers, d'investisseurs ou de futurs investisseurs immobiliers qui, plus par réflexe ou mimétisme, se disent spontanément il faut créer une SCI avant de se lancer dans un investissement immobilier. C'est évidemment pas forcément le bon réflexe à avoir. C'est pas parce qu'on a un ami, un proche ou quelqu'un de la famille qui l'a fait pour des raisons particulières qu'il faut forcément faire, et que d'un point de vue fiscal, financier, patrimonial, c'est le meilleur dispositif, loin de là. Donc on ne rentrera pas dans le détail ce soir parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on peut déjà apporter ce premier élément de réponse. La SCI n'est bien sûr pas forcément la clé pour l'investissement dans l'immobilier locatif. Une fois de plus, on fait référence à ce qu'on a évoqué juste avant par rapport à la définition de son projet et de ses attentes prioritaires. Alors, si on regarde un peu le support peut-être sur justement les premiers éléments sur la location nue ou la location meublée, Thierry.
Alors, voilà. Donc ça, c'était juste un vrai petit rappel. Mais voilà, déjà, le choix entre nu et meublé, avant d'être fiscal, il sera déjà en fonction du projet. J'évoquais tout à l'heure de vouloir louer une maison en nu s'il n'y a pas de demande. En meublé, pardon, ça ne sert à rien. Donc, on fait d'abord le choix par rapport au type de bien qu'on a choisi. Derrière, et c'est ce qu'on abordera ce soir, tout ce qui est location nue, on va être sur les revenus fonciers, et tout ce qui est location meublée sera sur les régimes du bénéfice des industriels et commerciaux. Et c'est là où on va voir qu'il y a vraiment deux façons différentes et de déclarer les revenus et surtout d'être taxé sur ces revenus. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur les revenus fonciers. Donc les revenus fonciers aujourd'hui, alors à chaque fois
qu'on... Donc qui dit revenu foncier dit forcément location nue, on est d'accord, hein?
Tout à fait, location nue. Alors, ce régime d'ailleurs des revenus fonciers qui est en propre sera également le même pour les SCI à l'impôt sur le revenu. Donc on va voir d'ailleurs, on ne l'évoquera pas, mais ça veut dire qu'effectivement faire une SCI à l'impôt sur le revenu, c'est exactement la même chose que déclarer des revenus fonciers. Donc on voit bien que l'intérêt des SCI, il est ailleurs et pas uniquement sur l'optimisation fiscale. Quand on est donc en location nue, on va avoir deux types de moyens de déclarer les revenus. Donc soit avec le régime micro-foncier, et là on aura un abattement de 30%. Donc si j'ai 10 000 euros de loyer, ben je mets 10 000 euros sur ma déclaration de revenus et automatiquement il y a 30% d'abattement, et donc les loyers imposables seront sur une base de 7 000 euros. Ou soit je peux choisir le régime réel, et là pour le coup, ben, comme son nom l'indique, on va déduire en fait toutes les charges réelles. Et donc si j'ai par exemple 10 000 euros de loyer, 4 000 euros de charges réelles, ben, je serai imposé sur la base de 6 000 euros. On voit
sans oublier les prélèvements sociaux.
Alors justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que À partir du moment où, que ce soit en régime micro ou régime réel, on déduit les charges réelles, logiquement, ou sinon ça ne sert à rien d'investir, une fois que j'ai enlevé de mes loyers les charges, je dois avoir un bénéfice, sinon il n'y a pas d'intérêt à investir. Et ce bénéfice, il va être imposé à la tranche marginale et à la CSG à 17,2. Donc ça veut dire effectivement que si je suis sur une tranche à 30%, eh bien, mon résultat va être imposé à hauteur de 47,2%. Et c'est ce qu'on entend souvent, c'est qu'effectivement, les revenus fonciers sont fortement taxés, puisque là, dans l'exemple, une fois que j'ai déduit de mes loyers et mes charges, mon bénéfice va être imposé sur une tranche marginale, donc quasiment à 50%. Donc, il y a la moitié de mon bénéfice qui va partir sous format, sous forme d'impôt. On parle
Tiens, on a une
souvent aussi
question,
dans
je te
les...
relaie, excuse-moi, je relaie
Oui,
une question à
je t'en prie.
l'instant. Je pense que c'est lié entre le jeu, c'est peut-être lié entre le régime microfoncier et le régime réel. Est-ce qu'on peut changer de régime chaque année en fonction de ses besoins ou des événements? En tout cas, c'est la question qui vient d'être posée.
Alors, chaque année, je serai pas sur le régime foncier, je ne serai pas aussi catégorique, mais effectivement, on peut, en tout cas en meublé, on peut changer de régime en cours de route. Tout à
D'accord.
fait.
D'accord, en tout cas sur la partie meublée. Peut-être s'appuyer sur un exemple, c'est ça que tu...
Très bien, voilà. Donc, si, pour voilà, un petit peu plus concret. Alors, notamment par rapport, parce qu'on c'est ce qu'on entend souvent parler en meublé, c'est en nu, pardon, c'est tout ce qui est déficit. Notamment sur les premières années, on va faire des travaux. Donc, j'ai essayé de l'illustrer avec un exemple. En année 1, on est sur 13 000 euros de loyer dans l'exemple, 3 000 euros de charges. Donc là, on est sur le régime réel, donc avec les charges réelles. On va déduire également les intérêts d'emprunt. Et on va déduire les travaux, ce qui fait que loyer moins charges, moins intérêts, moins travaux, je me retrouve avec un déficit de 17 000 euros. Ce déficit, il va être imputable pour 10 000 euros sur mes autres revenus d'activité et le reste va passer en déficit reportable. Donc, ça veut dire que sur cette année-là, si mes revenus d'activité étaient de 40 000, imposables étaient de 40 000 euros, je vais déduire ces 10 000 euros de déficit et donc je vais me retrouver avec une base imposable qui sera plus basse cette année-là à 29 300 euros.
Oui, 10 700 euros pour être précis, effectivement.
Ouais.
Et avec un
Voilà.
report l'année suivante.
Alors, c'est là où les années suivantes, effectivement, le report va être imputable non pas sur les autres revenus, mais sur les futurs loyers perçus. Donc là, dans l'exemple, les loyers moins mes charges, moins mes intérêts d'emprunt, moins mon déficit reportable, je crois que c'est plus 1 700, ce n'est pas moins 1 700. Donc je me retrouvais avec un résultat imposable de 1 700 euros. Et donc ce résultat imposable, je vais venir l'ajouter à mes autres revenus, donc de 40 000 euros. Donc ça fait 41 700 euros. Et c'est ce résultat imposable, il va être imposé donc sur ma tranche marginale et à la CSG à 17,2.
Oui, très bien. Très bien, très bien. Et je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose
Alors, mais
sur les
en
revenus
fait,
fonciers, justement.
en synthèse, sur les revenus fonciers, on aura systématiquement de l'imposition, puisque c'est le résultat qui va être imposé. Donc, comme l'objectif, c'est quand même de faire du bénéfice, et que ne sont déductibles que les intérêts d'emprunt et non pas le remboursement du capital, ça veut dire qu'effectivement, on aura toujours un résultat imposable, sauf à créer du déficit. Mais si on crée du déficit, ça veut dire que tous les ans, on repart dans des travaux pour justement effacer cette imposition, mais ça veut dire effectivement qu'on est contraint d'avoir plusieurs biens et d'être toujours dans cette logique de faire des travaux. Et c'est souvent ce que sont obligés de faire les gens qui font la location nue, parce que le jour où on arrête de faire des travaux, on se retrouve d'un seul coup avec une imposition assez conséquente.
Très bien, très clair. Merci Thierry pour ce premier éclairage.
Alors, sur la location meublée, on va avoir à peu près le même type de fonctionnement, mais avec des subtilités. Sur le régime micro, déjà, on va être avec un abattement de 50%, voire de 71% si on a fait le choix du classement en meublé de tourisme. Donc, même avec l'abattement forfaitaire, déjà, en meublé plutôt, on aura une taxation moins importante qu'en régime nu. Là où, par contre, il y a une vraie différence, c'est sur le régime réel LMNP, puisqu'effectivement, on va de la même façon pouvoir déduire toutes les charges réelles, mais on va également pouvoir déduire l'amortissement du bien. Et l'amortissement du bien, c'est bien une spécificité du régime BIC, puisqu'en fait, on va tenir une comptabilité type comptabilité d'entreprise, entreprise individuelle. Il y aura l'obligation d'avoir un bilan ILIAS, mais effectivement, dans ce cadre-là et dans le cadre de la comptabilité d'une entreprise individuelle, on va pouvoir amortir le bien. Souvent, alors, quel que soit le résultat, le principe sera le même. On sera imposé tranche marginale et CSG à 17,2. La seule différence, c'est que souvent, on n'aura pas de résultat, donc ni impôt sur le revenu, ni CSG. L'autre subtilité, par contre, c'est que tout ce qui est déficit, à l'inverse de l'allocation nue, les déficits ne seront pas imputables sur les autres revenus. Donc, ils tourneront, en fait, ils seront imputables uniquement sur les autres revenus, les MNP, mais il n'y a pas de notion de déficit quand je fais des travaux en location meublée. Ça ne me permettra jamais de diminuer mon impôt sur mes autres revenus. Par contre, on va voir avec les exemples derrière que l'allocation meublée permet, dans une majorité des cas, de ne pas payer d'impôt tout court. On va pouvoir avancer, si tu veux, Maxime, sur les amortissements, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait, quelque part, sur la location meublée. Donc, en fait, qu'est-ce que l'amortissement ? L'amortissement, c'est la capacité de constater, en fait, la dépréciation comptable de la valeur d'un bien. Alors, c'est vrai que sur de l'immobilier, elle est purement comptable, cette dépréciation, mais en tout cas, on a le droit de la pratiquer, même si le bien ne perd réellement pas de valeur. D'ailleurs, il en gagne. Comment ça fonctionne ? Ce que vous avez sur la gauche du tableau, en fait, c'est ce que l'administration fiscale recommande. Donc aujourd'hui, quand on fait un investissement immobilier, il y a une part de terrain qui n'est pas amortissable. Alors souvent, les gens nous disent « non mais c'est un appartement, donc je n'ai pas de terrain ». Il y a toujours une part terrain puisque l'appartement est dans un immeuble, l'immeuble est posé sur un terrain. Donc en fait, systématiquement, on enlève toujours une part de terrain dans les biens immobiliers. Alors si c'est sur une maison avec un jardin, c'est assez facile d'identifier la part de terrain. Si c'est sur un immeuble, on le fera par le principe des tantièmes pour essayer d'estimer quelle est la valeur du terrain dans la valeur du bien.
Parce que pour reformuler, dans le tableau qu'on voit présenté, on a une indication de 20% pour le terrain. C'est une indication parce que c'est un standard du marché, parce que c'est un pourcentage qui est souvent retenu, quelle que soit la typologie du bien qui est acheté. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des marges de manœuvre, justement, j'ai l'impression, entre l'appartement et la maison, quelles sont les fourchettes qui peuvent être appliquées sur s'il y a une fourchette, et quelles sont-elles?
Alors, c'est souvent assez difficile d'appréhender la valeur du terrain. Donc, on a des fourchettes qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas de difficulté avec l'administration fiscale. Globalement, la valeur terrain va osciller entre 15 et 30%. 15% pour toutes les petites villes et puis 30% quand on va être sur des villes où le terrain est assez cher, et notamment toutes les grosses villes ou les villes proches du littoral. Mais même, par exemple, si on prend l'exemple d'un appartement parisien, on aura une appréciation qui peut être différente entre un appartement dans un immeuble haussmannien de 3 étages et avec un peu de jardin, d'un appartement qui serait dans une tour de 15 étages avec finalement très peu d'emprise au sol. Donc même sur Paris, on pourrait être amené à prendre 30% dans un cas et 25% dans l'autre, dans le deuxième exemple, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, qu'on propose à nos clients. Et puis des fois, les clients aussi ont une expertise qui peut nous permettre d'affiner en fait ce pourcentage. 20%, c'est celui qu'on retient pour les exemples puisque c'est une valeur moyenne assez standard, on va dire.
OK.
Voilà. Après, une fois qu'on a isolé la part du terrain, on va avoir toute la part bâtie et construction. Et donc là, par exemple, pour l'illustrer, le gros œuvre, l'administration fiscale nous dit que ça doit représenter 40 à 50% de la valeur du bâti, et on va pouvoir l'amortir sur une durée entre 30 et 60 ans. Si on prend par exemple les façades, ça va représenter 5 à 20% de la valeur avec un amortissement entre 20 et 50 ans. Donc on voit bien que si je retiens 5% amorti sur 50 ans, ce ne sera pas du tout la même chose que 20% amorti sur 20 ans. Donc là, chaque cabinet, quelque part, a ses propres grilles. Donc aujourd'hui, on a fait nos grilles. Ces grilles, en fait, ont pour objectif d'optimiser ces pourcentages pour faire en sorte d'optimiser au maximum les durées d'amortissement pour finalement amortir le plus rapidement possible pour éviter d'avoir une imposition, auprès de nos clients.
Toujours dans le cadre du respect
de la législation.
Tout à fait.
Voilà. Donc en fait, on pratique un amortissement un petit peu plus court. Ça permet, globalement, si on garde le bien 30 ans, ça va être lissé en fait sur 30 ans. Mais pour les clients qui auraient des fortes rentabilités, qui garderaient le bien que 10 ans, par exemple, ça permettra d'optimiser en fait les 10 premières années, de revendre et de racheter derrière, par exemple. Et je vais l'illustrer avec un exemple derrière. Ça permettra de voir un petit peu comment est fait la comptabilité. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à l'amortissement, parce que c'est souvent un sujet un petit peu un petit peu.
Non, mais je pense que tu y as répondu. En tout cas, c'est comme on voit des fourchettes, que ce soit sur la valeur en pourcentage et la durée d'amortissement, on pouvait se poser la question de la façon dont c'était retenu, quel pourcentage d'un côté était retenu, quelle durée d'amortissement de l'autre. Donc, c'est en fonction de chaque cas. Et il y a des pratiques qui sont définies au niveau du cabinet dans le respect de la législation, et c'est aussi toute la valeur ajoutée d'un cabinet d'expertise comptable spécialisé pour optimiser justement les pourcentages d'amortissement, parce que je pense que nos participants l'ont bien compris, l'intérêt, le LMNP, et on parlera de la différence avec le LMP après, parce que c'est une des questions qui nous a été soulevée. Donc, la location meublée non professionnelle, c'est un dispositif extrêmement intéressant grâce à l'amortissement, essentiellement grâce à l'amortissement, dont on voit un peu le détail ici expliqué. Si tu veux, on peut passer justement à l'exemple pour que ça parle à tout le monde.
Alors, le tableau peut sembler un petit peu complet, mais l'idée, c'était juste d'expliquer un petit peu comment ça va se présenter une comptabilité LMNP sur une vingtaine d'années. Donc là, je suis parti sur un exemple d'un appartement d'une valeur de 300 000 euros avec des loyers à hauteur de 14 400 euros et une cote par terrain de 20%. Si on prend l'année 2022, donc on va avoir 14 400 euros de loyer. On va déduire les charges donc à hauteur de 1 200 euros. On va déduire les intérêts d'emprunt, donc dans l'exemple, à hauteur de 3 564 euros. Et on va déduire l'amortissement à hauteur de 14 312 euros. Une fois qu'on a déduit en fait toutes ces charges, on se retrouve avec un résultat comptable négatif à hauteur de 4 676 euros. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va ramener le résultat à zéro. Donc, les 4 676 euros qui ne servent pas, on va les mettre en réserve. Donc, on met 4676 en réserve. On se retrouve du coup avec un résultat, c'est ce qu'on voit en bout de ligne, à 0 euros. En année 2, bah, ça va être le même principe. On a pour le coup, les intérêts d'emprunt ont un petit peu diminué. Donc, on se retrouve avec un résultat négatif de 4 553 euros. Donc, on remet en réserve et on voit que la réserve, elle augmente, elle passe à 9 229 euros. Et ainsi de suite, pendant de nombreuses années, jusqu'en 2032, là, on voit que jusqu'en 2032, ben, tous les ans, en fait, on met en réserve et la réserve augmente, puisqu'en 2032, on sera à 38 000 euros de réserve. Et à partir de 2032, là, en fait, on voit que les amortissements ont considérablement diminué. Il y a une partie des composantes qui sont à 100% amorties, donc c'est pour ça que les amortissements diminuent. Et auquel cas, on va faire l'inverse, c'est qu'on va commencer à puiser sur la réserve. Donc en 2032, j'ai un résultat positif de 3 087 euros, mais je vais aller chercher dans ma réserve 3 487 euros pour ramener le résultat à zéro. Et ainsi de suite. Et on voit là dans l'exemple qu'avec une rentabilité des loyers à hauteur de 14 400 euros, on est tranquille en fait pendant 17 ans. C'est uniquement à partir de 2039 où on commencera à être imposable.
Oui, effectivement, alors, sous réserve que les loyers restent fixes pendant toute cette période, mais c'est à titre indicatif dans le cadre de cet exemple-là. Mais c'est pour démontrer entre guillemets l'intérêt et la puissance en termes de fiscalité de ce dispositif à l'MNP. Et c'est vrai que l'opportunité de pouvoir amortir, on l'a vu juste avant, tout le bâti de son investissement immobilier, avec des conditions qu'on vient de partager juste précédemment, permet de réaliser une différence très très importante sur l'impact fiscal, sur le résultat fiscal par rapport à une location nue en fait. J'en profite pour te poser parce qu'il y a plein de questions qui nous sont posées. Merci une nouvelle fois à tous nos participants. Une question qui peut concerner beaucoup de gens, je pense. Quelqu'un qui démarre la location meublée pour la première fois en 2023 d'un bien qu'elle possède déjà depuis longtemps, en l'occurrence dans l'exemple qui nous est soumis, depuis 25 ans. Comment ça fonctionne ?
C'est bien, parce que c'était la transition que je voulais faire, donc c'est parfait. En fait, aujourd'hui, l'amortissement est lié à la valeur du bien. Il n'est pas lié à l'endettement. Donc, qu'on achète à crédit ou qu'on achète cash, l'amortissement sera le même. Ce qui va changer, c'est les intérêts d'emprunt déductibles. Et donc, la valeur du bien, c'est la valeur à un instant T. Donc, si c'est une acquisition neuve, ben, on va s'appuyer sur l'acte notarié pour définir en fait la valeur et calculer l'amortissement sur cet acte notarié. Si on est sur des biens anciens qui ont été dans le patrimoine personnel pendant des années, que ce soit parce qu'auparavant c'était de la location nue ou tout simplement parce que c'était un bien qui n'était pas loué auparavant, on demandera en fait au client de faire une estimation et c'est sur cette estimation qu'on appuiera en fait la valorisation des amortissements, le calcul des amortissements plus exactement.
Donc pour résumer, le fait de détenir un bien depuis plusieurs années qui n'était pas détenu sous le dispositif de la location meublée ne pose aucun problème pour démarrer un amortissement à partir de la première année de la mise en location meublée, c'est bien ça?
Tout à fait, et on s'appuiera sur la valeur du marché, donc la valeur estimée.
Ok. Alors si on poursuit effectivement la synthèse avec un exemple chiffré.
Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir justement, et c'est ce qu'on invite, c'est ce que j'invite à faire les investisseurs, voilà, quand ils veulent calculer une rentabilité nette, puisqu'on voit bien que l'impôt qui va être généré va avoir quand même une conséquence importante dans la rentabilité du projet. Là, j'ai illustré donc avec un exemple en location nue avec un loyer à 6 000 €. Donc, dans le cadre des revenus microfonciers avec l'abattement de 30%, donc on va déduire des charges forfaitaires à hauteur de 1 800 €. Donc, on se retrouve avec un résultat imposable à hauteur de 4 200 €. Si on est sur une tranche marginale à 30 et une CG à 17,2, ça fait 1 982 € d'impôt. Ça veut dire que sur 6 000 € de loyer, j'ai déjà 2 000 € de charges et après, je vais encore avoir 2 000 € d'impôt sur ces loyers. L'abattement réel, pour le coup, je déduis les charges réelles, donc à hauteur de 800 €. Je vais déduire mes intérêts d'emprunt, donc à hauteur de 1 300 €. Donc, je me retrouve avec un total de charges de 2 100 €, une base imposable à hauteur de 3 900 € et donc 1 841 € d'impôt plus CSG. Donc là, c'est pareil. On peut imaginer que si on avait fait une opération, et ça, c'est souvent une remarque que me font les clients, ils calculent en fait, ils se disent, voilà, j'ai 6 000 € de loyer. En face, j'ai calculé mes charges, j'ai calculé mes intérêts d'emprunt. Ben, j'ai réussi à faire une opération blanche, donc c'est super, ça s'autofinance. Sauf qu'en fin d'année, ils ont oublié qu'il y avait 1 800 € d'impôt. Ça change complètement la rentabilité du projet, quoi. Donc, il faut bien penser dans sa rentabilité à inclure le paiement de l'impôt que ça va générer. Et on sait qu'en revenu foncier, on a quand même une taxation qui est relativement lourde, d'autant plus qu'on va être sur des tranches marginales élevées. Je vais faire juste une petite aparté. Ça sera justement pour faire une transition sur un prochain webinaire. C'est là où la SCI à l'impôt sur les sociétés peut avoir un vrai intérêt parce qu'en fait, on pourra sur des revenus fonciers fortement taxés opter pour la SCI à l'impôt sur les sociétés et pour le coup amortir le bien et se retrouver dans une fiscalité relativement proche de ce que serait le LMNP. Donc la SCI à l'IS peut être un très bon choix pour des gens qui ont des revenus fonciers et qui sont sur des tranches marginales élevées.
Tiens, tu parles de SCI à l'instant. Je te relais une des dernières questions qui nous a été posée. Sur un premier investissement à LMNP, faut-il faire une SCI ou rester en propre?
Alors, la SCI, ce n'est pas le régime miracle. Il faut vraiment rester en propre. La SCI va être bien, c'est pour ça que je l'évoquais là, dans le cadre des revenus fonciers, parce qu'on va vraiment pouvoir limiter l'impôt. Dans tous les autres cas, la SCI ne sera un outil qui servira uniquement à la transmission, mais fiscalement parlant, ce n'est pas le meilleur outil, la SCI.
Est-ce qu'on peut dire que la SCI, à un moment donné, d'ailleurs, je suis désolé, hein, je ne peux pas relayer toutes les questions, toutes les remarques qui nous sont montées, mais quelqu'un nous explique qu'à un moment donné, dans le cycle de vie de l'investissement immobilier, on peut changer de dispositif et quelqu'un parle d'une vente à soi-même, et là, à travers une SARL de famille. Donc ça aussi, on pourra en reparler à un autre moment, mais est-ce que tu peux en dire un mot peut-être?
Tous ces dispositifs, en fait, sont faits, la vente à soi-même et après le rachat via une SARL ou via une SCI, c'est des très bonnes solutions pour des biens qu'on a détenus pendant de nombreuses années, effectivement. Puisqu'en fait, on va pouvoir optimiser une première fois la taxation des plus-values, parce que c'est des biens qu'on a depuis très longtemps, les plus-values vont être souvent complètement exonérées, et repartir pour un deuxième cycle. Donc, en fait, c'est un complément. En fait, de la même façon qu'aujourd'hui, un bien qui serait amorti au bout de 25 ans en location meublée et qui va commencer à générer de l'impôt, Soit on le vend et on rachète un nouveau bien et on redémarre un nouveau cycle de 25 ans, soit effectivement on change de dispositif via par exemple des SCI et ça peut être justement le moyen de pouvoir recommencer un nouveau cycle sans avoir besoin de vendre le bien. Donc c'est tout à fait exact. Après on rentre vraiment dans du sur-mesure et là vraiment chaque situation est différente et doit être analysée avec beaucoup de précautions. On peut pas faire autant sur le LMNP on peut faire des généralités, autant sur le reste on peut pas faire de généralités. C'est compliqué.
Non, très bien, juste, on se rapproche de... Ah oui, tu voulais dire une autre chose.
Pardon, juste, je voulais revenir en arrière sur la location meublée. Pour finir d'illustrer.
Oui,
en régime BIC, donc abattement de 50%, ça je vais aller rapidement dessus. Donc déjà, on voit bien que l'impôt est moins élevé. Mais c'est là où on voit effectivement qu'en location meublée, de par les amortissements, je me retrouve en fait avec un résultat négatif et donc pas d'impôt. Et c'est vraiment ça aujourd'hui l'intérêt du LMNP et du régime réel, c'est de pouvoir se dire, voilà, quand je fais mon calcul de rentabilité, si mon opération s'autofinance, il n'y a pas de mauvaise surprise en fin d'année, je n'aurai pas d'impôt induit par les loyers perçus. C'est vraiment la richesse ou la spécificité du régime LMNP. Un autre point derrière, c'est qu'aujourd'hui, tous les régimes qu'on a évoqués, là, que ce soit location nue ou location meublée, on reste sous le régime des plus-values des particuliers. Ça veut dire qu'effectivement, même en LMNP, même si j'ai amorti mon bien, je reste sur le régime des plus-values des particuliers. Donc, ça veut dire qu'au moment où je revendrai mon bien, je serai taxé comme un particulier, comme seraient taxés mes revenus, mes biens qui étaient en revenus fonciers en nu. Donc aujourd'hui, on a la chance en LMNP de pratiquer une comptabilité d'entreprise et d'amortir, mais de bénéficier d'une fiscalité de particulier à la revente et donc finalement d'avoir tous les avantages, l'amortissement pendant l'activité et les plus-values des particuliers à la revente qui reste quand même malgré tout le régime le plus intéressant en termes de calcul de plus-value.
Bah, je te remercie Thierry d'évoquer ce point-là parce que c'est une des dernières questions qui nous a été posée, la fiscalité à la sortie, tu viens d'y répondre. Entre-temps, on a déjà eu plein d'autres questions, donc on déborde de questions, merci, désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes, on fait au mieux et nos conseillers se chargent de répondre notamment par écrit à certaines des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Est-ce que, en fait, quand on a cette présentation et notamment cette comparaison, on a l'impression que la location meublée à travers le régime BIC réel, donc la location meublée non professionnelle, est un régime magique, entre guillemets, presque. Il faut avoir des éléments en tête. Je pense que c'est aussi la conclusion. Donc c'est un régime extrêmement intéressant, mais néanmoins, il y a des contreparties.
Alors voilà, la fiscalité, donc on l'a dit, on ne reviendra pas dessus, elle est attractive du fait des amortissements. On reste sur le régime des plus-values des particuliers. Les points de vigilance ou les contraintes, c'est effectivement qu'il faut tenir une comptabilité, puisque à l'inverse des revenus fonciers qu'on déclare directement sur sa déclaration de revenus, là, en fait, il faut produire un bilan, une liasse. Il faut bien calculer les amortissements, donc faire appel à un cabinet spécialisé, c'est quand même aussi un gage de sécurité.
J'ai une question par rapport à ce point-là, excuse-moi pour toi. Est-ce que vous avez beaucoup de clients qui, à un moment donné, font appel à vous et qui ont démarré, ils ont essayé de tenir une comptabilité eux-mêmes ou c'est très très rare ?
C'est très rare et ce n'est pas conseillé.
Alors, ce n'est pas conseillé, je partage à 200%.
J'irais même plus loin. Aujourd'hui, je l'évoquais en préambule, le réseau Contacom, c'est 50 cabinets, c'est 35 associés. Donc aujourd'hui, on est 35 associés. Expert comptable au sein du réseau, je tiens la comptabilité LMNP de mes collègues associés qui sont pourtant experts comptables, c'est-à-dire qu'ils ont la gestion et la maîtrise des dossiers d'entreprise, de l'accompagnement de l'entrepreneur. La comptabilité LMNP, si elle est simple, parce qu'effectivement, on n'a pas des volumes de factures énormes, quand c'est de l'allocation annuelle, on a 12 factures de loyer. Mais toutes les subtilités, toutes les optimisations font que si on n'est pas spécialiste de l'allocation meublée, on risque de faire des erreurs. Donc, même un cabinet comptable classique ne sera pas forcément… il ne sera pas mauvais puisqu'il saura tenir une comptabilité, mais il ne sera certainement pas le plus à même de bien optimiser déjà le bilan du client et surtout de le conseiller sur tous les sujets qu'on évoquait en aparté, c'est-à-dire la transmission, les SCI ou ainsi de suite, pour finalement faire les meilleurs choix par rapport à la situation du client.
Et d'autant plus que les charges liées à la tenue de la comptabilité par un cabinet spécialisé viennent en déduction des revenus.
Tout à fait. Et en plus du fait que ce soit notre spécialité, on a quand même des tarifs qui sont le plus optimisés possible pour nos clients, donc le plus bas possible.
D'accord. Pardon, je t'ai coupé du coup pour
Non, non, je voulais
la
dire,
suite des
voilà.
points de vigilance et des contraintes
Voilà.
peut-être?
Le dernier point de vigilance par rapport au statut LMNP, c'est le fameux statut de loueur meublé professionnel. On
Donc
reste LMNP.
on a une question dessus tout à l'heure. Quelle est la différence entre le statut LMNP et le statut LMNP d'ailleurs?
Voilà. Donc, ça va se jouer en fait sur les plus-values. Aujourd'hui, en fait, on l'a évoqué, quand on est LMNP, on pratique des amortissements, alors que finalement le bien ne perd pas de valeur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en LMNP, ça n'a pas de conséquence, puisque quand on vend, on est sur les plus-values des particuliers. Quand je vais avoir un système d'entreprise, et c'est vrai pour les loueurs en meublé professionnels, mais ça va être vrai pour les SCI, ça va être vrai pour tous les formats sociétés hors la SARL de famille. Si aujourd'hui j'ai un bien que j'ai acheté 100 000 euros et que j'ai amorti à hauteur de 50 000 euros, dans mon bilan, il va valoir 50 000 euros. Si demain je le vends 150 000 euros, j'ai une plus-value de 100 000 euros, puisqu'en fait, la plus-value va être constatée non pas entre le prix d'achat et le prix de vente, mais dans le prix, la valeur nette comptable, donc la valeur du bien dans le bilan et le prix de vente. Donc, dès qu'on va être sur un format de société, les amortissements vont se retrouver taxés au moment de la revente. Donc, finalement, on bénéficie d'un avantage, mais on reporte le problème plus tard au moment de la revente. Dit comme ça peut faire peur. Après, il y a des systèmes d'exonération, ce qui fait que, par exemple, le statut pro aujourd'hui, si on l'optimise, on peut quand même, comment dirais-je, dans l'exemple, si on optimise dans le statut pro, on va finalement payer des impôts que sur les amortissements et on arrivera à exonérer la plus-value réelle, donc la vraie plus-value de 50 000, donc entre mon prix de vente et mon prix d'achat. En SCI, il n'y a aucune exonération. Donc quand on entend que la SCI, c'est miraculeux, ben, si on pratique des amortissements dans une SCI, à un moment ou l'autre, ils se retrouveront taxés. Donc dès qu'on va être dans un format sociétal, ce n'est pas la catastrophe, c'est juste qu'en fait, on est en train de différer l'impôt. Mais c'est sûr que quand on est sur une TMI à 40 ou 30 avec une CSG à 17,2, ben c'est toujours plus agréable de payer l'impôt plus tard au moment où on vend que de se serrer la ceinture, je veux dire, tous les mois, quoi. Mais ce n'est pas miraculeux. Le statut pro, on va l'atteindre à partir de quel moment? À partir du moment où on va dépasser le seuil des 23 000 de chiffre d'affaires, mais surtout à partir du moment où les loyers vont dépasser les revenus d'activité du foyer fiscal. Donc, si aujourd'hui les revenus du foyer fiscal sont de 100 000 euros, ben, tant que mes loyers ne dépassent pas 100 000 euros, je serai non pro. Par contre, si effectivement les revenus du foyer fiscal sont de 30 000 euros, ben, dès que je vais dépasser 30 000 euros de loyer, je vais être qualifié de pro. Donc, là, c'est pareil, c'est en fonction de la situation de chaque ménage où on va avoir plus ou moins de marge de manœuvre. Mais même si toutefois on retrouvait un statut de professionnel parce que les loyers dépassaient à un instant T les revenus du foyer fiscal. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en cas de revente, on regarde le statut du loueur l'année où il a vendu. Et comme les loyers ou les revenus d'activité peuvent fluctuer, on peut aussi imaginer que les gens soient une année pro, une année non pro, une année pro, une année non pro, et donc s'arranger pour vendre les biens, soit en profitant du statut professionnel si finalement c'est le plus intéressant, ou soit en essayant de retrouver un statut de non professionnel si toutefois c'était le régime le plus intéressant. Donc, c'est un petit peu rapide en termes de conclusion. Retenez juste que tant qu'on peut rester dans le système LMNP, c'est le régime le plus intéressant. Et après, si on doit basculer sur un régime pro, il est fortement possible de gérer en fait ce statut pro pour l'optimiser. Et ça, c'est notre quotidien, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Et si on va chercher par contre des formats sociétés type SCI ou autre, ce n'est pas miraculeux puisqu'à un moment ou l'autre, la taxation ne fait que la reporter. Donc si on le fait, c'est dans d'autres cadres. On l'évoquait tout à l'heure dans le cadre d'une revente à soi-même, par exemple, ou dans le cadre de transmission, parce que là, en fait, effectivement, on va plutôt chercher à économiser en fait sur les frais de succession.
Parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup Thierry pour tous ces éléments, tout cet éclairage. Je peux te dire par expérience qu'effectivement nos participants étaient très intéressés parce que le niveau de participation est resté totalement stable du début à la fin. Et merci à tous de nous avoir suivis. Encore merci Thierry. On évoquera d'autres sujets d'investissement dans l'immobilier locatif à l'occasion de futurs webinaires au gré de l'intérêt suscité par celui-ci. Thierry Gendron est notre partenaire de manière historique sur cette thématique de l'investissement immobilier, essentiellement à travers le LNMP. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller ou du cabinet de conseil Grisby Gestion Privée pour en savoir plus justement sur les modalités d'investissement, sur les tarifications d'un accompagnement par Thierry. On vous relaiera avec plaisir l'information. On s'efforcera également de répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre, que ce soit au cours du webinaire ou de façon écrite, parce qu'une fois de plus, là, on a été un petit peu débordé, mais ça démontre tout l'intérêt que vous portez au sujet. Donc voilà, merci vraiment à tous et à très bientôt.
Merci à toi, Maxime, et puis au plaisir d'animer un futur webinaire sur une autre thématique.
Parfait, à bientôt.
Merci, au revoir. Thank you.